Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Et nous allons voir l'histoire d'un homme qui a été béni par le Seigneur. Il a rencontré Jésus et il a été guéri. Et vous allez voir comme c'est formidable, comme la Bible est un livre plein d'humour, comme avec peu de mots, avec des phrases concises, elle arrive à nous faire ressentir, à nous faire revivre un événement et même à nous dévoiler le cœur des hommes dont elle parle. C'est formidable, c'est succulent. Évangile de Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché ?» Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ne perdez pas la page, nous allons continuer la lecture, mais déjà ici, nous avons quelques réflexions à donner. Voilà donc un homme aveugle de naissance, qui est assis sur le bord du chemin. Jésus vient avec ses disciples, et nous voyons là tout de suite la mentalité de l'homme, ce qui vient à l'esprit de l'homme religieux, de l'homme croyant. Est-ce que c'est lui qui a péché, ou est-ce que c'est ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Tout de suite la théologie. Quand on n'est pas capable de guérir quelqu'un, alors on fait de la théologie, on fait de la philosophie, on pose des questions, on essaie... Pensez-vous, cher ami, que, à mon avis, je pense que, moi j'estime que, mais ça, tout ça, ça sauve pas et ça change pas. Alors ce qu'il faut, c'est pas faire des beaux discours sur les gens et sur les mots, mais c'est apporter le remède. Et vous voyez, il y a une pensée aussi que nous trouvons ici dans le cœur de ces hommes, de ces apôtres, c'est que celui qui est malade, c'est qu'il a péché. Celui à qui il arrive une tuile, c'est qu'il ne plaît pas à Dieu. Celui chez qui tout va bien, c'est qu'il est béni. Et celui qui a des tuiles, c'est qu'il n'est pas béni. Voilà la pensée des gens. Mais ça, c'est une pensée tout à fait fausse. Tout à fait fausse. C'est pas parce que les gens ont de l'argent plein le porte-monnaie, ont une belle villa, une grosse voiture, et qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont automatiquement agréables à Dieu. Il y a bien des gens qui sont de véritables gangsters, qui ne sont pas malades et qui ont tout ce qu'il faut sur la terre. Et il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont droits et qui pourtant sont malades et sont malheureux. Donc le fait d'être malade ou d'avoir des ennuis, ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent quand ils sont malades, « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour qu'il m'arrive des choses pareilles ?» Et voyez-vous, c'est vrai que souvent les chrétiens ont des ennuis que les païens n'ont pas. Demandez-le à Job, demandez-le à l'apôtre Pierre quand il était dans la prison, avant quand il était pêcheur, voleur, menteur, il n'était jamais en prison. Et à partir du moment où il a commencé à suivre Jésus, on l'a mis en prison comme un malfaiteur. Et c'est souvent comme ça. Le diable existe, mes amis. et il s'occupe de nous. Et c'est lui qui donne la maladie, c'est lui qui donne le chagrin, c'est lui qui donne le péché et le remords, c'est lui qui veut vous détruire. Il vous bénira, excusez l'expression entre guillemets, pendant un certain temps. Il vous donnera ce que vous lui demandez. Il vous donnera la gloriole, il vous donnera la gloire, la santé, tout ce que vous voulez. Mais il vous fera payer cher. Et s'il peut vous détruire le plus tôt possible, il le fera. Car écoutez bien ce que je vous dis, ne croyez surtout pas que le diable aime ses amis. Dans l'enfer, il n'y a pas d'amour. Demandez-le au SS. Croyez-vous qu'ils s'aimaient entre eux? Il y avait des intrigues entre eux. Ils ne s'aimaient pas. Qu'est-ce qui les faisait tenir ensemble? C'était la crainte, c'était la peur, c'était la haine. Et dans l'enfer, c'est comme ça, les démons ne s'aiment pas entre eux. Mais ils restent ensemble parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que leur ennemi, c'est Dieu. Et le diable, il dit ceci, « Moi, je suis perdu, mais j'en perdrai le plus possible avec moi. » Et alors, il vous ment, il vous raconte des histoires, il vous fait croire que Dieu est mauvais et que lui, il est bon. Et que lui, quand il vous dit « Fume, drogue-toi, profite des plaisirs », que ça, c'est gentil. Et quand Dieu dit « Ne fais pas ça, détourne-toi de ça », ça, c'est méchant. Dieu, c'est un empêcheur de tourner en rond. Mais moi, je vous apporte des plaisirs. Écoutez pas Dieu, n'écoutez pas les prédicateurs, n'écoutez pas toutes ces histoires. Il faut pas mentir, il faut pas haïr, tout ça. Écoutez, de quoi? Tu vas pas tendre la joue droite sur une femme sur la joue gauche? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Allez, allez, toi, t'es un homme, allez, tu te défends. Et alors, tu te défends tellement bien que tu te détruis toi-même. C'est vrai qu'il y a de la joie dans la vengeance. C'est vrai. Mais c'est une joie qui détruit. Et la joie de pardonner, c'est une joie qui construit. Amen. N'écoutez pas la voix du mensonge. N'écoutez pas la voix de votre adversaire. Écoutez la voix de Dieu. Voilà donc un homme. Il était malade, mais il n'était pas plus mauvais qu'un autre. Alors le Seigneur ne répond pas tellement à leurs questions. Mais il leur dit, pendant qu'il fait jour, pendant qu'il y a la lumière, je suis la lumière du monde, je suis venu pour guérir. Et si cet homme est malade, eh bien c'est pour qu'il soit guéri par Dieu. Et voilà ce que Jésus dit de vous ce soir. Si vous avez des problèmes, des difficultés, c'est pas pour vous arrêter. Avec Dieu, rien ne peut l'arrêter. Mais si vous avez des problèmes et des difficultés, c'est pour que ces choses soient réglées. C'est pour que vous alliez plus loin. Quelle que soit votre maladie, le Seigneur dit, cette maladie n'est pas pour la gloire du diable, mais pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut que vous soyez guéris. Ça, c'est la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Alors, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, quelle que soit votre difficulté, le Seigneur dit, ces choses sont permises pour la gloire du Seigneur. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Elle lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Avouez que c'est bizarre. Jamais le Seigneur ne fait la même chose. Dieu agit toujours différemment avec chacun. Que c'est étrange. Voilà maintenant Jésus qui crache par terre. Il fait de la boue et il la met sur les yeux de l'aveugle. Je me demande ce que devaient penser les apôtres et tous les gens qui étaient là. Bien sûr, le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Et vous savez, à mon avis, je peux me tromper, ce que je vais vous dire maintenant, c'est pas, vous savez, je parle pas ex cathedra, moi, hein. Mais je pense que le Seigneur a voulu montrer quelque chose, là. Il a voulu montrer que pour que l'homme aveugle voie clair, il a fallu que quelque chose vienne sur ses yeux. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole. La poussière, la terre, nous parle de ce que l'homme, du produit qu'est l'homme, n'est-ce pas? L'homme a été tiré de la terre. Il n'est que poussière, il retournera en poussière. Or il a fallu que la parole de Dieu se fasse chair, se mélange à la poussière, soit comme maudit, et que cette parole de Dieu prêchée, qui est Jésus-Christ, vienne sur les yeux des aveugles pour leur faire voir clair. Il a fallu que Dieu se fasse homme pour que nous puissions voir clair, pour que nous passions des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il a fallu que de la bouche de Dieu sorte la parole vivante et qu'elle se mélange à notre misère. Quel amour! Vous ne trouvez pas que c'est formidable, cet amour de Dieu qu'il a quitté, lui qui était esprit pur, il a quitté le ciel et il s'est fait chair. Il est sorti d'une femme. Comme nous, lui, il s'est fait homme pour que nous devenions fils de Dieu. Il est descendu pour que nous montions. Il a épousé notre race. Mais il a fallu qu'il fasse ça pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous passions des ténèbres à la lumière. Mais les apôtres l'ont compris plus tard, ça. Ils l'ont pas compris sur le moment. Et alors, il a dit à cet aveugle, « Maintenant, va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Et alors cet homme est allé. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il lui dit pas tu seras guéri. Mais il lui dit va. Et cet homme y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Oh mes amis, quel miracle. Quel miracle. C'est extraordinaire. On m'a raconté une fois l'histoire d'un aveugle de naissance qui a été guéri sous une tente d'évangélisation. Cet homme avait les yeux complètement blancs. Il n'y avait rien dans ses yeux. Il était blanc, aveugle de naissance. Et après la prière pour les malades, il a vu. Dieu a recréé instantanément ses yeux. Il paraît que c'était quelque chose d'extraordinaire. Cet homme pleurait et tout le monde pleurait. Et alors il disait... Qu'est-ce que c'est ça? Et le prédicateur dit, ce sont les mâts qui tiennent la tente, le chapiteau. Alors après, il a appelé sa mère. Il a dit, maman, où es-tu? Et sa mère est venue. Et pour la première fois de sa vie, il a vu sa mère. Les gens pleuraient dans la salle, sous la tente. C'était quelque chose d'extraordinaire. Imaginez ce que ça peut être, un aveugle de naissance. Eh bien, mes amis, nous, lorsque nous voyons clair, lorsque nous passons des ténèbres à la lumière quand Jésus nous sauve, c'est l'effet que ça produit. Nous voyons des choses et nous comprenons des choses que nous n'avions jamais réalisées. Et on dit, mais c'est pas possible que j'étais aveugle à ce point-là. Ah, maintenant je vois. Mais c'est pas possible de dire que ce type-là dit, je l'admirais, mais maintenant il me fait pitié. Pauvre homme. Pauvre malheureux, avec tout ton argent et tout ça. Pauvre homme, si je pouvais t'apporter ce que j'ai moi maintenant. Et alors on regarde les choses tout à fait autrement. On dit, l'autre là-bas, je me moquais de lui avant, mais maintenant je vois que c'est lui qui avait raison. Ça va frère, alléluia, gloire à Dieu, hein. Et puis alors on dit dire que avant je passais des heures à regarder des films, j'allais payer, là. J'allais donner des sous pour entrer dans des salles, toutes noires. Et là, je m'asseyais, et je regardais des choses qui n'étaient pas vraies. Il y en a qui faisaient semblant de tirer, les autres qui faisaient semblant de mourir. Il y en a d'autres qui faisaient semblant de pleurer, puis moi je pleurais pour de bon. Et j'allais payer pour ça. Mais c'est pas possible! Je vivais que de vent, que d'illusions. Je me nourrissais de romans, de livres que je lisais. C'était pas vrai, c'était tout de la blague, c'était tout du rêve, il n'y avait rien de vrai. Et je ne vivais que dans l'erreur, que dans le mensonge, que dans l'illusion, que dans le rêve. Je posais pas les pieds par terre, je ne voyais pas que j'étais perdu. J'aurais pu mourir d'un mot à l'autre et être en enfer. Je ne voyais pas, je ne pensais même pas à Jésus, je ne pensais pas au principal. Je pensais à tout, même à mon assurance vie. Mais j'ai pas pensé à l'éternité. C'est pas possible, j'étais aveugle à ce point-là. Oui, mes amis, quand le Seigneur vous ouvre les yeux, vous êtes vraiment comme un aveugle de naissance qui voit. C'est une nouvelle naissance. Vous êtes complètement transformé. Ça, c'est pas de la religion, mais c'est une nouvelle vie qui vient en vous. C'est un miracle qui vous ouvre les yeux. Vous allez me dire, mais après un miracle pareil, Quand ils ont vu ça, tout le monde devait se réjouir. Ça a dû être la fête là-bas. Tout le monde a dû chanter, ils ont dû... Mais pas du tout. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout que Dieu fasse des miracles. Il y a des gens qui ne sont pas du tout contents. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand vous serez guéris, quand vous serez transformés, quand vous serez bénis, écoutez ce que je vous dis. Il y a des gens qui feront tout pour que vous ne reveniez pas ici. Et dans le fond, ils ne vous le diront pas, mais qui aimeraient bien que ce ne soit pas vrai. Et même que vous retombiez malade pour dire « Alors t'as bien vu que c'était pas vrai, c'est de la blague, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement. » Je ne sais pas intérêt à ce qu'il y en ait. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Tout ce que j'ai fait, le mal que j'ai fait, que j'ai dit, tous les mensonges que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, ça ne sera jamais jugé. Non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y en ait un. Et c'est pour ça qu'ils ne tiennent pas du tout à ce qu'il y ait des miracles. Ils ne tiennent pas du tout à ce que ce ne soit vrai. Et ils font tout leur possible pour faire douter. Alors, regardons voir ce qui s'est passé. Il y a là, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient... N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Là, c'est pas le Robert? C'est pas le Robert que là, celui qui était mendiant, là, qui était... Les uns disaient, si, c'est lui. D'autres disaient, non, c'est pas lui, il lui ressemble, c'est pas lui. Et lui-même disait, c'est moi. Vous trouvez pas que c'est succulent, hein? Alors, ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il réfléchit, alors il dit, c'est l'homme, c'est un homme qui m'a dit ça. C'est pas un ange, c'est pas, j'ai pas entendu une voix du ciel, non, c'est un homme. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Alors, ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Les pharisiens, c'était les représentants de la religion officielle. Car vous savez, vous n'ignorez pas, chers amis, que si Jésus vivait aujourd'hui, à la télévision et dans les journaux, on dirait la secte du Nazaréen. On le traiterait de secte, c'est sûr. C'est sûr et certain. Comme dans ce temps-là. La religion officielle, donc les représentants, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Elle lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Dans notre religion, nous avons décidé que le jour du sabbat, même les médecins ne doivent pas guérir. Donc s'il était de notre religion, il serait de Dieu. Mais comme il n'est pas de notre religion, il ne fait pas comme nous on pense, donc il n'est pas de Dieu. Nous, on n'est pas sectaires, on est des gens bien. D'autres dirent, ouais, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Vous voyez, parmi ces gens-là, il y avait des gens honnêtes, des gens sincères. Et je bénis Dieu de ce qu'il y a des gens sincères dans toutes les religions. Alléluia. Et vous voyez, ici, c'était le cas. Il y en a qui disaient, oui, mais dis, tu dis ça, mais là, le gars, il est quand même là, il est quand même guéri. Alors s'il est guéri, un homme, il peut pas faire des miracles comme ça si Dieu n'est pas avec lui. C'est qu'il faut quand même réfléchir. Bon, on s'est peut-être trompé, nous, avec notre tradition religieuse. Faut peut-être réfléchir.
Ah non, 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 non. On m'a toujours appris comme ça. Je changerai jamais, hein. Attention, hein. C'est nous les meilleurs, hein.
Ils dirent donc à l'aveugle, alors les voilà qui reviennent vers l'aveugle. Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Tout à l'heure, il a dit l'homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, à force de voir tous ses ennemis autour de lui, il commence à réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont après lui pour être... Ils devraient se réjouir. Pourquoi ils sont contre lui comme ça? Oh, moi je me rappelle, quand j'étais petit, que j'allais à l'école du jeudi ou du samedi, quand on me racontait l'histoire de la Bible, je me rappelle, ils persécutaient toujours les vrais prophètes. Ça doit sûrement être un prophète pour qu'ils lui en veuillent comme ça. C'était eux qui l'ont aidé à comprendre, vous voyez? Qu'est-ce que tu dis de lui, toi? C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même, il vous répondra, oui. Vous voyez un petit peu le tableau, les parents qui arrivent. Et voilà les grands hommes religieux qui sont là avec leurs grandes barbes, tout ça. Est-ce que c'est votre fils que vous dites être né aveugle?
Comment? Oui, c'est bien notre fils, hein, chérie. C'est bien notre fils, hein, c'est bien Robert. Hein. Ah, mais c'est lui, hein, ça. Il n'y a pas de problème, hein. Ah oui, puis alors, pour être né aveugle, ah oui, il est vraiment né aveugle depuis tout petit. D'ailleurs, je me souviens encore quand la sage-femme nous a dit quelque chose qui n'était pas normal, on pleurait, c'était terrible. Hein. Depuis tout petit, là, il a toujours été... Ah oui, c'est lui, hein, chérie, c'est notre fils, oui, il est bien né aveugle. Alors, comment il voit maintenant? Alors ça, comprenez, demandez-lui, à lui, il va vous le dire, vous savez. Oui, faut pas vous gêner. Demandez-lui, il va vous le dire, il a de l'âge. Hein, Robert, dis-leur comment t'as été guéri. Ils voulaient pas, ils avaient peur, vous comprenez. Ils avaient peur d'être excommuniés de leur religion. Ils avaient tellement peur que ils n'osaient pas prendre position. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ah, ils étaient embêtés avec ça, hein. Oh, ils auraient bien voulu qu'il n'y ait jamais eu ce miracle. Ils auraient bien voulu. Et vous savez, on en a vu comme ça, des gens qui ont été guéris. Je me souviens de ce que notre frère Falk nous a raconté. Vous savez, c'est un miracle indiscutable. Une femme qui avait été opérée des organes. On lui avait ôté les organes. C'était un cancer. Le cancer avait atteint le foie. Elle était couchée dans son lit. Elle était mourante. Elle entendait parler par la fenêtre ouverte un prédicateur de l'évangile, un homme tout simple. C'était un forgeron. Et il parlait de Dieu. Il disait, Jésus est toujours le même. Il vous aime et il peut vous guérir si vous croyez. Alors elle a dit, fais venir cet homme. Fais-le monter pour qu'il prie pour moi. Alors son mari lui a dit, mais tu sais que nous, ce n'est pas la même religion que nous. Et ça, c'est sûrement encore une secte. puisqu'il n'est pas de chez nous, donc c'est une secte. Il n'y a que nous qui ne sommes pas une secte, quoi. Les autres, c'est tous des sectes. Il n'y a que nous qui ne sommes pas une secte. Alors donc, il faut pas dire, écoute-toi, moi, je vois que c'est un homme qui prêche l'évangile, qui prêche le Seigneur, dis-lui de monter. Alors finalement, il est quand même monté. Il lui a posé la question. Ma sœur, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est, il t'aime et qu'il peut te guérir et qu'il veut te guérir? Oui. Alors je prie pour toi. Il a prié pour elle. Sur le moment, il ne s'est rien passé. Et pendant la nuit, elle s'est réveillée et elle a vu le Seigneur au pied de son lit. Et le Seigneur a dit ces paroles, « Je suis venu pour exaucer les prières de la prière de mon serviteur, tu es guéri. » Et le lendemain matin, elle s'est levée.
« Mais qu'est-ce que tu fais? Couche-toi tout de suite! Tu !»
Alors elle a dit, « Mais je suis guéri. » Et vous savez ce qui s'est passé après, mes amis? Cette femme, vous le croirez peut-être pas, mais on peut vous le prouver. Ce sont des choses certaines. Cette femme, elle a eu un enfant après. Et vous savez ce que le docteur a dit, lui qui était un athée? Il a secoué la tête. Et il a dit, Dieu m'oblige à croire au miracle. Si ce soir, il y a quelqu'un qui est ennemi de Dieu, ennemi du bien, de la vérité, de la sainteté, de la justice, de la miséricorde, de l'humilité. Quelqu'un qui n'aime pas ces choses. Quelqu'un qui a pris position pour le mal. Car prendre position contre Jésus, c'est faire le mal. Je vous en prie, mon ami, ne restez pas dans cette stupidité, car vous êtes perdus à tous les coups. On ne fait pas ça quand on est intelligent. Si vous luttez contre Dieu, vous êtes sûr de perdre. Parce que Dieu a raison et vous avez tort. Dieu est saint et vous êtes un pécheur, un blasphémateur. Repentez-vous pendant qu'il en est temps. N'essayez pas de vous consoler avec des faux raisonnements, mais tournez-vous vers le Seigneur. Soyez humble, reconnaissez qu'il est votre maître. On trouve toujours son maître. Et il vaut mieux le trouver par amour que d'être brisé par lui le jour où il fera justice et où il punira ceux qui le méritent. Pendant qu'il est votre sauveur, pendant qu'il se présente à vous comme votre ami, tournez-vous vers lui, demandez-lui pardon et acceptez-le comme votre sauveur. Ne soyez pas stupide comme ces gens qui voyaient un miracle et qui ne voulaient pas croire.
Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et lui dire, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Dis comme nous. Allez, dis-nous que c'est pas vrai. Dis-nous quelque chose qui nous fasse plaisir. Donne gloire à Dieu. Et prends position pour ta religion, pour nous. On n'est pas d'accord avec Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Alors voilà. Voilà ce qu'il répond, lui. Il dit, s'il est un pécheur, je ne sais. Moi, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, puis que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est.
Il n'avait qu'à se renseigner. Seulement, ça ne les intéressait pas.
Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, nous, qui avons fait de la théologie. Tu nous enseignes, toi, qui sais rien du tout. Et ils le chassèrent.
Ah, mes amis, la théologie, vous savez, c'est... Je me souviens une fois, Dans notre pays, là-bas, nous avons un chrétien, il travaillait avec un gars qui avait une religion, il pratiquait sa religion, mais il commettait adultère. Et alors, le chrétien de chez nous lui a dit, tu sais ce qui est écrit dans la Bible? Il est écrit que les adultères n'entreront pas dans le ciel. Ah! Il est embêté, hein. Il monte, on fait pas. Alors, il est allé trouver son directeur de conscience, je vous dis pas de quelle religion il faisait partie, ça n'a pas d'importance, ça pourrait arriver dans n'importe quelle religion. Alors il dit, voilà, il y a un gars là qui va dans l'église évangélique. Et alors, il m'a dit que c'est écrit dans la Bible que les adultères n'entreront pas dans le ciel. Alors le directeur de conscience lui a dit, c'est un homme qui n'a pas fait la théologie, c'est des gens qui ne connaissent pas la Bible comme nous. Il a oublié, ton cher ami, que Jésus a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. » Ah, il était content, hein. Ah, il dit, chic, ça c'est un bon directeur de conscience, je vais pouvoir continuer à faire adultère sans que je sois troublé la nuit, je pourrais dormir tranquille maintenant. Il est allé trouver son copain, là, le chrétien de chez nous, et il lui a dit, « Ah, c'est Jésus !» Il a dit à la femme adultère, je ne te condamne pas. Puis il a dit aux autres que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Alors le chrétien lui a dit, oui, c'est vrai, mais il a dit aussi à la femme, va et ne pêche plus. Demi-tour. Quand la Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. C'est bien ça, hein. Ah, ils veulent entendre des choses agréables. Alors il est allé trouver le fameux directeur de conscience. Il a dit, mais Jésus l'a dit à la femme, il m'a dit, chrétien évangélique là, il m'a dit, Jésus l'a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il a dit, mais il a dit ça pour rire. Il savait bien qu'elle recommencerait. Voyez mes amis, comme on peut tordre le sens des Écritures. Mais je suis sûr que vous qui êtes là ce soir, vous savez au fond de votre cœur, et vous comprenez très bien que ce n'est pas dans une religion qu'il faut mettre sa confiance, ni dans une secte, ni dans un homme quelconque pour le salut, mais que c'est en Jésus-Christ, que son saint nom soit béni. Mes amis, il n'y en a qu'un qui est mort pour vous sur la croix. Il y en a qu'un qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Il y en a qu'un qui est vivant et que nous pouvons prier. C'est Jésus. Et lui, il ne vous décevra jamais. Vous avez peut-être été déçus par les hommes. Je vous comprends. Nous avons tous été déçus par les hommes. Mais il y en a un qui ne vous décevra jamais. C'est Jésus. Il est là. Il vous aime. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas des gens qui veulent mettre le grappin sur vous. Nous sommes là pour vous aider. Si vous donnez votre cœur à Jésus et que vous allez dans une autre église que la nôtre, pourvu que ce soit une église qui marche sur la parole de Dieu, nous vous accueillerons toujours pareil et vous serez sauvés. Parce que c'est pas notre église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et ce qui est important, c'est pas d'appartenir à une église, à une religion, mais c'est d'appartenir à Jésus. Tournez-vous vers lui, car il vous aime, et lui seul est vraiment digne de votre confiance. Venez à lui.